Excellent lundi. Merci d'être avec nous dans cette magnifique journée. Écoutez, il fait beau, il fait chaud. Oui, je sais, un avertissement de chaleur pour aujourd'hui. Il faut faire attention, il faut bien s'hydrater, mais il faut surtout en profiter. Écoutez, avec un 32 degrés à prévoir pour la journée, je pense qu'on va pas se plaindre de l'été que l'on connaît présentement. Il fait vraiment beau. Alors, il y a pas de baboune aujourd'hui à l'émission. Plein de beaux sujets. Notamment, on va parler de la nostalgie des années 80. Qu'est-ce qui fait qu'on est autant attiré par cette décennie? Il y a des références dans les émissions. On n'a qu'à penser à Stranger Things, qui est comme hyper populaire sur Netflix ces temps-ci. Il y a la mode, la musique. Qu'est-ce qui fait qu'on aime autant, justement, les années 80? On va en parler avec des spécialistes. Également, jusqu'où on est prêt à aller pour avoir la gloire sur le web. Vous savez, les fameux défis, là. Je veux pas les appeler comme ça, mais c'est le nom qui me vient quand même. Quand t'es assez tata pour faire un direct sur Facebook à Trois-Rivières et que tu poignardes ton ami ou ton pseudo-ami pour un défi, pour avoir des likes, je trouve ça pas mal ordinaire. Et là, on se dit, OK, on va aller jusqu'où? On a vu les Tide Pod Challenge, on a vu plein de trucs comme ça, de défis pour les ados. Mais c'est pas seulement que les ados, il y a des adultes également. On a l'impression que les réseaux sociaux, c'est une grosse télé-réalité. Donc, c'est assez particulier. Il y a Patrick White qui va venir nous en parler aux alentours de 10h30. Et pour tout de suite, ben, peut-être que vous étiez là en fin de semaine. EV Montréal. La fin de semaine prochaine, c'est le festival Oshiaga. Et après ça, Il Sonic également. Donc, il y a plein, plein, plein de festivals. Et trop souvent, malheureusement, ben, quand on dit festival, événement, et oui, un encadrement, mais peut-être pas assez, il y a égale consommation soit de drogue. Bon, on va parler également de surconsommation d'alcool dans certains cas également. Malheureusement, il y a un jeune garçon de la Rive-Sud de Longueuil qui est décédé. 19 ans seulement, c'est horrible. Décédé des suites d'une surdose au festival Valhalla. Moi, c'est un festival que je ne connaissais pas du tout. Là, en Outaouais, il paraît que c'est bien, bien, bien populaire. Est-ce qu'on devrait mieux, donc, encadrer les festivals de musique? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on devrait avoir plus de sécurité? T'sais, je sais que déjà, on fouille les sacs, mais puis on ne peut pas faire une fouille corporelle non plus à chaque festivalier, si on peut comprendre ça. Il y a beaucoup de gens, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus, justement, pour éviter ce type de choses et ces drames horribles? Jessica Turmel est avec nous. Salut, Jessica.
Bonjour.
Coordonnatrice psycho-éducatrice au GRIP Montréal, qui est un groupe de recherche et d'intervention psychosociale, et Hertel Huard. Bonjour, Hertel.
Bonjour.
Chef d'équipe intervenant à Tel Jeune et Ligne Parents. Jessica, tu te promènes, toi, avec le GRIP de festival en festival. Qu'est-ce que tu remarques à chaque fois? Est-ce que la consommation de drogue augmente dans ce type d'événement plus particulier?
Ben, en fait, le GRIP existe depuis 12 ans. Donc, moi, je suis là, c'est-à-dire depuis 12 ans. Le GRIP est là depuis 20 ans sur le terrain, mm-hmm. dans les festivals, autant dans les petits raves underground qu'on connaît moins, jusqu'aux grands festivals comme Evenco, Valhalla. On est un peu partout. Et ben, ce qu'on constate, en fait, c'est que la consommation, premièrement, elle est partout.
Ouais.
Partout où on va, peu importe le type de musique, il va y avoir de la consommation. C'est pas tout le monde qui consomme. On n'est pas nécessairement consommateur parce qu'on y va. Mais on voit une diversité, disons, de substances qui change à travers le temps, un peu. On va voir différentes modes aussi selon le type de milieu où on va aller, selon l'âge des participants aussi. Donc, est-ce qu'on voit plus de drogues qu'avant? Je dirais qu'on voit peut-être autant de drogues, mais plus diversifiées, différentes, qui emmènent des enjeux différents. Par exemple, on retrouve plus de drogues synthétiques oui. maintenant, donc fabriquées en laboratoire. Ça emmène des gros enjeux au niveau de la qualité de ce qui circule. On le voit là présentement avec la crise des surdoses. Donc, ça emmène des enjeux qui sont différents, mais les substances sont toujours là, ont toujours été là.
Ils vont continuer à être là aussi.
Ils vont continuer ouais. d'être présentes. Ça fait partie de l'expérience humaine. Et les substances sont consommées particulièrement dans des contextes de plaisir. Et c'était vraiment un bassin, un milieu où on voit la consommation récréative de ces substances-là. Donc, on a beau faire ce qu'on veut, être d'accord ou pas d'accord, mais elles sont là pour rester.
Et dans les festivals, bon, je parlais quand même de ceux qu'on connaît peut-être un peu plus. Il y a le Valhalla qui existe quand même depuis plusieurs années. Je sais qu'il y a même des petits parties à gauche et à droite d'organiser de Valhalla. Mais c'est quoi exactement ce festival-là?
En fait, quand on parle de festival au Québec, on a toute une panoplie oui. de milieux qu'on connaît ou qu'on connaît moins. On a les grands festivals là, montréalais et à Québec aussi qu'on connaît mm-hmm. plus. Mais il y a beaucoup de festivals en région comme Eclipse, Valhalla, des festivals de musique électronique. En fait, dans les années 90, on a vu éclore le mouvement rave au Québec, qui était plus underground, un petit peu plus marginal, les gens le connaissaient moins. Mais ce mouvement-là de musique électronique s'est quand même développé, donc c'est une scène qui attire quand même beaucoup de gens, des 2000, 5000 personnes. Et ça se passe habituellement en région. Souvent, ça se passe en plein air.
Dans des campings aussi.
Exactement. Ouais. Donc, dans la forêt, on se rapproche de la nature. Et c'est le type de milieu aussi où le grippe est présent.
Et d'ailleurs, pour revenir à cet événement-là, on parlait de cette surdose du jeune garçon de 19 ans qui en est décédé. C'est d'une tristesse inouïe, évidemment. Et il y a d'autres jeunes également qui ont été aux prises parce que vous en voyez, puis on parle de Valhalla, mais il y a plein d'autres événements également où vous avez dû intervenir parce que vraiment, il y avait un cas là, devant vous qui était proche de décéder, là.
Oui, c'est malheureusement une réalité à laquelle on est confronté, hein, des surdoses. Mm-hmm. Faut pas oublier non plus toutes les surdoses qui sont pas mortelles, donc dont on n'entend pas parler, mais qui font partie de la crise là présentement, des gens qu'on arrive à sauver. Ça nous est arrivé là d'aider des personnes qui ont passé à une minute de différence près de la mort, près du décès. C'est souvent, il y a plusieurs facteurs en fait reliés à ça. C'est souvent relié à la qualité des produits. La personne consomme un produit qui est beaucoup plus fort ou qui n'est pas du tout ce qu'elle pensait consommer. On ajoute à ça le fait de danser, de ne pas dormir. Quand on parle d'un festival là, sur quelques jours comme ça, le manque de sommeil, la chaleur extrême qui vient, la déshydratation, c'est tout ça qui est mis ensemble, qui font qu'on retrouve toutes sortes de portraits en fait. Le risque ultime étant la mort, mais on peut avoir différents... il y a les surdoses, là, mais il y a aussi des bad trips, des gens qui ne sentent pas bien, qui font de l'anxiété. Donc, c'est un peu tout ce qu'on gère, nous, le côté psychosocial, l'expérience qui entoure la consommation.
Et là, je sais qu'il y a des parents qui vont être très surpris parce qu'ils vont acheter des billets pour Hillsonic, Coachella ou autre événement du genre, justement, qui vont dire « Ah, mon enfant, il s'en va dans un camping 3 jours, il va être correct avec ses amis, il va se faire un petit feu de camp, il va écouter de la musique. » Là, il entend Jessica parler, il dit « Je pense que je ne l'enverrai plus, je pense que je suis un petit peu paniquée. » RTL UR, est-ce que c'est le genre de questionnement que les parents vous appellent, justement, la Ligue Parents est-elle jeune?
Ben oui, tout à fait, parce que nous, on n'est pas nécessairement sur place, donc on n'est pas en plein milieu du drame, donc on est plus un peu en prévention. Et oui, le type d'appel qu'on reçoit, c'est vraiment des parents ou des amis qui sont inquiets par rapport à un événement qui va s'en venir ou un événement qu'ils ont déjà vécu, ils ne veulent pas que ça se reproduise. Donc vraiment, c'est des questionnements de comment éviter, tu sais, ça va de comment éviter que mon enfant consomme à comment bien l'encadrer, comment m'assurer de sa sécurité. C'est sûr, nous, on est un peu dans la réduction des méfaits, un peu comme on disait, elle va être présente, la consommation. Si on connaît notre enfant, si on sait qu'il y a peut-être une tendance à y aller, à vouloir faire de nouvelles expériences, à vivre de nouvelles sensations, en tant que parent, on peut s'assurer est-ce qu'il est capable de nous rejoindre en tout temps? Est-ce que les amis avec qui il est, est-ce que c'est des gens de confiance? Est-ce que nous, en tant que parents, on les connaît? Est-ce qu'à la limite, on est game des accompagnés? Parce qu'il y a des parents qui vont aussi, qui accompagnent leurs enfants, qui restent un peu en retrait.
Oui, il faut que l'enfant veuille aussi, par exemple.
Oui, c'est ça. Ça peut être une condition quand ils sont mineurs. Donc oui, nous, on a beaucoup d'appels par rapport aux inquiétudes puis à comment s'assurer que tout se passe bien ou le mieux possible, si on veut.
Oui, mais le type d'âge, justement, des gens qui sont plus appelés à consommer, est-ce qu'on a fait un barème est-ce que c'est les 16-18, les 18-24?
Les études sont difficiles à réaliser, surtout quand on sort du milieu scolaire, secondaire, où là, on a beaucoup d'études. Quand on sort de ça, on sait que le pic de consommation est pas mal là, le 18-25 ans. C'est le gros pic dans une vie où la consommation va être plus présente. Élément important à préciser aussi, c'est que la majorité des gens vont faire une expérimentation de substances et ne vont pas là, sombrer ou vivre des gros enjeux, des gros problèmes.
Avoir une dépendance.
Par rapport aux drogues, oui, exactement. Donc, pour la majorité des gens, ça se passe quand même bien, mais les risques sont présents, il faut en tenir compte. Et notre pic 18-25 ans, c'est peut-être le plus difficile à rejoindre, étant donné qu'ils ne fréquentent pas le milieu scolaire secondaire où là on investit peut-être plus d'argent. Donc, c'est beaucoup dans les festivals, en fait, qu'on va les retrouver puis que ça va nous permettre de rejoindre des jeunes qu'on ne rejoindrait pas autrement.
Donc, c'est ce que vous voyez au GRIP parce que vous vous promenez, vous êtes là pour faire de la prévention, pour parler également avec les jeunes, être là sur place s'il arrive quelque chose aussi. Donc, est-ce que les jeunes vraiment vont vous parler et dire hey, « je ne suis pas convaincue de ma consommation », vont vraiment être assez ouverts pour ça?
C'est étonnant à quel point on attire des gens, en fait, à partir du moment où les gens prennent conscience qu'on n'est pas là pour les juger, on n'est pas là pour leur dire de ne pas consommer, on est vraiment neutre par rapport à l'expérimentation. Et on prend la personne où elle est, en fait, pour lui emmener, ça peut être des informations, tout simplement. Qu'est-ce qui arrive si moi, je prends des antidépresseurs, par exemple, ce qui arrive souvent, de la médication pour un TDAH, puis je veux consommer tel ou tel produit. Démystifier, c'est quoi cette crise-là, là, de fentanyl qu'on entend parler? Qu'est-ce qui arrive m'arrive si j'ai pris une ecstasy en début de journée, puis là, on m'a offert des champignons magiques? Est-ce que ça va ensemble ou ça va pas ensemble? Donc, c'est le type de questions que les gens nous posent.
Vous êtes capable de répondre.
Et on est outillé pour répondre à ces questions-là. On est là aussi pour remettre du matériel, ça peut être des condoms, par exemple, parce que l'expérience, parfois, va vers la sexualité. Donc, on est là pour assurer la protection à ce niveau-là. Puis les gens viennent nous voir, ça peut être juste aussi pour nous parler. On a des toutous, on offre un coin qui est relaxant aussi pour prendre du temps pour soi, prendre du temps pour se reposer. Et souvent, ce lien de confiance-là qu'on crée, quand la personne ne va pas bien, ensuite, c'est nous qu'elle va venir voir. C'est sûr qu'on travaille avec les équipes médicales et c'est eux qui vont s'occuper de tous les cas physiques. Mais on a eu des situations comme une surdose dernièrement où la personne est passée à... deux cheveux de décédée, mais pendant 3 jours, elle venait nous voir à tous les jours, elle s'amusait avec nos toutous, tout ça, on jasait. Puis elle a fait confiance à une intervenante de l'équipe quand elle n'a pas été bien. Elle lui a ouvert la porte des toilettes là où elle était, puis c'est ce qui lui a probablement permis de sauver la vie. Ah. Donc ça, c'est à l'extrême. Mais oui, les gens sont contents et apprécient. Quand ils ne se sentent pas bien aussi, quand ils ne se sentent pas en sécurité, de venir voir des gens qui ne sont pas là pour les juger, puis qui sont là pour les accueillir.
Mais en même temps, quand on parle de cas quand même extrêmes, une surdose, des problèmes, des psychoses aussi, c'est ce que ça peut entraîner, est-ce que la sécurité doit être encore plus serrée? Est-ce qu'on devrait avoir plus de gens sur place, des ambulanciers également qui sont au courant de la formation, qui se promènent? Moi, je pense à des jeunes qui sont peut-être... Là, on parle vraiment de peut-être plus de problèmes de drogue, mais il reste quand même, on parle de déshydratation et tout ça. Est-ce que ces jeunes-là pourraient être mieux encadrés également dans les festivals? Est-ce qu'on devrait peut-être plus en avoir?
Bien, en fait, c'est souvent d'avoir des lieux de retrait. Parce que oui, il y a de la sécurité, il y a des fouilles, mais il y a tellement de monde, il y a tellement de musique, il y a tellement de stimulation. Et souvent, c'est qu'il n'y a pas de milieu de retrait, il n'y a pas de milieu ben, où il y en a où... Dans le fond, ils doivent être accessibles très facilement.
C'est très, 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 très loin.
C'est ça, exactement.
La personne va pas perdre ses amis. Ou...
C'est ça. Ou avoir des gens sur place qui facilitent l'accès à ces milieux-là. Puis dans ces milieux-là, c'est d'avoir des intervenants, comme le GRIP qui est sur place, des bouteilles d'eau, de l'information, un soutien psychologique, un endroit peut-être plus calme, essayer d'entendre moins de sons, pour aussi que... soi-même, on soit capable de se dire, OK, est-ce que je suis vraiment en bad trip? Est-ce que je fais juste pas bien filer? Est-ce que j'ai besoin d'avoir davantage? Donc, je pense de faciliter l'accès à ces milieux-là, c'est très important.
Et on va continuer à parler parce que je veux pas que les parents paniquent, mais vous pouvez nous écrire quand même si vous avez des questions à poser à nos spécialistes Jessica Turmel et RTL UR. C'est le 514-790-9850, 514-790-9850. Est-ce qu'on devrait mieux encadrer les festivals de musique? 10h20, est-ce qu'on devrait mieux encadrer les festivals de musique quand on parle évidemment de consommation de drogue, surdose? Ça peut aller même jusqu'à des jeunes qui se sentent pas bien aussi. Puis je parle de jeunes, là, mais c'est les 18-25 ans. Ça peut être des ados également, parce qu'on peut retrouver des très, très jeunes dans les types de festivals, 14, 15, 16 ans. On est avec nos deux personnes invitées, Jessica Turmel, coordonnatrice et psychoéducatrice au GRIP Montréal, et RTL UR, qui est chef d'équipe intervenant en tel jeune et ligne parents, pour nous joindre sur le 514-790-9850. Est-ce que je me trompe en disant qu'il y a une explosion de festivals? Il y a plein de petits... Il y a quand même des gros festivals qu'on connaît, évidemment, le Festival d'été de Québec et compagnie, mais j'ai l'impression d'une journée où on s'en va dans la forêt, puis là, on se rejoint avec Facebook, puis là, un événement, puis les jeunes vont faire du camping, qu'on voyait peut-être un petit peu moins avant.
Bien, ou beaucoup d'événements affiliés au festival, connexes, si on veut.
Ah, oui.
Facilement, on peut organiser un événement sur les réseaux sociaux, se dire, il y a l'île Sonic, juste avant ou juste après, à tel endroit, tout le monde y va. Puis on peut facilement avoir 1000 personnes sur Facebook qui peuvent se pointer. Là. C'est sûr que dans des situations comme ça, il y a encore moins de contrôle,
de surveillance.
Donc là, on peut avoir des mineurs, des jeunes... et des personnes avec peut-être des moins bonnes intentions. Donc, nous, on voit ce genre d'inquiétude-là.
Oui, et puis les événements électroniques, tout ça, avant, ça attirait plus un petit nombre, un petit bassin de personnes. Mais avant, c'était plutôt secret, en fait. Tu devais connaître le numéro de téléphone de la personne à appeler et tu savais seulement 24 heures d'avance où le lieu était. Tandis qu'aujourd'hui, c'est plus accessible avec les réseaux sociaux, Facebook, les gens se parlent. Je dirais qu'on... En fait, le GRIP couvre plus d'événements grand public qui sortent des petits groupes marginaux, mais qui vont attirer des gens de partout. On peut penser dans les cégeps, dans les universités, tous ces parties-là qui sont réalisées, les initiations. Donc, oui, on est... Montréal est une ville très festive. Le Québec aime fêter. Et oui, il y a beaucoup, beaucoup d'événements. Beaucoup plus que tout ce qu'on pourrait couvrir là, dans une vie.
Et de faire de la répression, parce que c'est les messages qu'on reçoit également par Internet, est-ce que ce serait pas mieux que de faire de la prévention?
Ce qu'on réalise, en fait, ça fait 100 ans environ là, qu'on utilise le modèle centré sur la prohibition, la répression. On essaie de contrôler, en fait, l'offre de drogue et ben, l'accès aux drogues et la consommation. Les constats qu'on a réalisés, c'est qu'en fait, on n'arrivait pas à diminuer le niveau de consommation, peu importe où on est. Donc, on n'atteint pas nos objectifs. Et non seulement on n'atteint pas nos objectifs, mais ça crée des problèmes qui sont parfois pires même que la consommation elle-même. Malheureusement, ben, quand on fait des fouilles à l'entrée, premièrement, on est à la frontière là, de la légalité quand la sécurité fait des fouilles. On est supposé fouiller une personne quand on a un motif raisonnable de croire qu'elle consomme. On pourrait faire un gros débat là-dessus, mais ce que ça fait souvent, c'est que les gens vont soit camoufler mieux leur consommation et l'emmener, ou acheter de l'autre côté des barrières, en fait, de gens qu'ils ne connaissent pas. Donc, ça crée des problèmes. Et on a vu, dernièrement encore, ce qui est arrivé, il y a eu un décès d'une personne qui a paniqué et qui a pris toute sa consommation d'un coup avant de rentrer. Ça, c'est ce qu'on craint.
Oui.
Et il y a eu un décès dernièrement d'un jeune à cause de ça. Donc, les gens disent, j'avais emmené 2 pilules de speed, je vais les prendre tout de suite. Ils les prennent et là, une heure après, on ramasse des gens qui font des surdoses. Donc, et en plus, ça diminue pas la consommation. Les gens vont l'acheter autrement, le cacher.
Donc, quelqu'un veut consommer, il va s'organiser puis il va savoir exactement où aller. Là.
Exact. Ouais. On insiste plus sur le fait de mettre de la prévention, des équipes médicales, bien sûr, en place, accès aux soins, comme on parlait tout à l'heure, et des équipes qui vont être là pour faire l'éducation, la prévention.
Mais est-ce qu'il y a une loi, c'est-à-dire que quand moi je veux organiser un festival de musique électronique dans mon quartier ou encore dans ma région, est-ce qu'il y a une loi ou un cahier de charges où je dois avoir de la sécurité, je dois avoir des toilettes, je dois avoir une zone, je dois appeler les ambulanciers, la ville? Est-ce que ça se fait?
On a eu dans les années 2000 une volonté à Montréal, tout ça. Le GRIP aimerait beaucoup qu'il y ait une certification au Québec d'événements sécuritaires, d'obligation, par exemple, d'avoir de l'eau accessible, des condoms accessibles. On manque d'encadrement à ce niveau-là. Bien sûr, les grands festivals, tout ça, doivent avoir une équipe médicale, une équipe de sécurité et tout, mais on n'a pas de loi là, par rapport à la publicité de l'alcool, par exemple, sur les lieux. On pourrait mieux encadrer ça. T'sais. On parle de consommation depuis le début de l'émission, mais l'alcool, c'est le plus gros enjeu qu'on retrouve dans ces milieux-là.
Mais ça, je trouve ça intéressant aussi de l'aborder, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de consommation, puisque je pense que ça suscite l'imaginaire aussi là, quand on parle de drogue de synthèse, notamment. Mais l'alcool, le premier trip, bien souvent, qu'un jeune va faire, c'est de prendre beaucoup d'alcool puis de le prendre très, très vite. On a parlé quand même de toutes ces boissons alcoolisées là, qui goûtaient le jus d'orange ou le jus de fruits, que finalement, c'était comme boire 4 coupes de vin en une canette. C'est probablement ce que un jeune va faire en premier. Là.
Mais oui, parce que c'est le plus accessible.
Oui. Et le
moins cher et le plus banalisé dans notre société. C'est très facile pour un jeune d'avoir accès à de l'alcool. Et aussi, quand il y a du marketing qui les vise directement, ça vient encore plus les chercher. L'alcool, c'est reconnu pour être très efficace sur le corps et d'avoir beaucoup d'effets négatifs sur la santé, sur la psychologie. Et souvent, les jeunes n'auront pas tendance à le prendre en compte s'ils veulent consommer autre chose. Donc, ils vont créer des mix sans nécessairement réfléchir à « Ah, j'ai pris de l'alcool. » Ils vont peut-être un peu... Nous, on a un peu plus de questions par rapport à des mix de drogue ou même de médicaments. Mais par rapport à l'alcool, c'est encore un peu flou que l'alcool fait partie de ces drogues-là. Donc oui, ça peut avoir un enjeu très, très, très pervers.
Et est-ce que les équipes médicales sont bien encadrées pour connaître justement ces formes de mélange-là? Si tu as pris de l'alcool, qu'est-ce que tu as pris avant? Qu'est-ce que ça fait le mélange?
En fait, les équipes médicales sont bien formées pour agir au niveau physique, en fait, de toutes les problématiques physiques qui peuvent survenir. Ils savent très bien quoi faire en cas de problème de consommation d'alcool. Ils connaissent quand même les symptômes de surdose. Parfois, un des gros problèmes qu'on a, c'est que souvent l'équipe médicale ne sait pas ce que la personne a consommé. Par exemple, parfois, on voit des gens qui font de la kétamine. Et qui ont des symptômes qui sont pas reliés à la kétamine. Donc, la personne de l'équipe médicale se dit, on n'a aucune idée, en fait, de ce que la personne a consommé parce qu'elle ne le sait pas elle-même. Donc, c'est souvent ça l'enjeu qu'on retrouve. Mais ils sont tout de même bien équipés là, pour savoir, selon les symptômes, en fait, comment réagir. Et parfois, ben, il faut faire des essais-erreurs. Quand on pense au naloxone, qui nous permet là, de renverser les effets des opiacés. Bien, en cas de doute, quand on voit une personne faire une surdose, une dépression respiratoire, on va, par exemple, administrer du naloxone. On va voir si ça fait effet. On va essayer différentes...
Mais ce n'est pas une pilule magique non plus. Ça, c'est important de le mentionner parce qu'il y en a qui se disent « Ah, ben je peux consommer, si j'ai de la naloxone, c'est pas grave, mon trip, ça va arrêter. » Mais ce n'est pas toujours comme ça, là.
Oui, ben l'analoxone, premièrement, n'a d'effet que sur les opiacés. Donc, on peut faire des surdoses de d'autres substances. La principale substance qui fait des surdoses, c'est l'alcool. Et l'analoxone,
autant que ça?
Oui,
vous en voyez
beaucoup. C'est le plus gros enjeu, en fait, l'alcool. Mais c'est là qu'on voit, en fait, tout le monde ne va pas mal et se ramasse pas dans les équipes médicales en consommant. On le comprend bien avec l'alcool, mais c'est quand même un risque qui est présent. Puis, c'est ce qui remplit le plus là, les salles de... Les tentes médicales, habituellement, les gens qui font du calage d'alcool, qui font pas attention au soleil avec l'alcool, qui se déshydratent, ou qui font des mix. Par exemple, je prends des boissons énergisantes, je prends de l'alcool. J'ai pas pensé que c'était une interaction entre deux drogues, ce que je viens de faire. Donc, c'est souvent ça qu'on va
faire. Mais pourquoi on banalise autant? Pourquoi on a l'impression qu'on met toujours l'emphase sur soit les opiacés, ou même le cannabis? On va dire, oui, c'est légal maintenant, mais quand même, il y a eu beaucoup de répression. Et que l'alcool, ben pour les jeunes, dans les festivals, dans les parties, c'était cool si tu as ta consommation.
Mais c'est l'acceptabilité sociale. L'alcool, tout le monde en prend dans les parties de Noël. Tu sais, si on pense dans les parties de Noël, il y en a beaucoup là, de surdoses toxiques. Mais c'est,
on ne les appelle pas comme ça. On dit le moment qui est chaud, le matin.
Exactement, c'est ça, exactement. Ouais. Mais si tu as pris de l'ecstasy puis que tu ne files pas le reste de la soirée, ah, ben là, tu as pris de la drogue, tu n'aurais pas dû, voici les conséquences. Donc, c'est ça, c'est vraiment, c'est accepté, c'est banalisé. Bon, les raisons, il faudrait revenir dans l'historique que je ne connais pas personnellement, mais c'est un des enjeux.
Oui, ça date de loin, mon Dieu, même à l'époque où Christophe Colomb a découvert l'Amérique, l'Europe est venue avec le vin. Hein, la religion chrétienne utilise le vin depuis toujours, le sang du Christ. Ça fait partie de nos mœurs là, depuis très, très, très longtemps.
On ne devrait pas justement se pencher là-dessus juste pour dire aux gens, regarde, oui, on parle autant de drogue, mais la drogue, l'alcool, ça en fait partie aussi.
Oui, effectivement, il y a beaucoup de travail à faire avec l'alcool. C'est hallucinant de voir la banalisation des adultes, des professionnels, autant que des jeunes par rapport à l'alcool, comparativement à des substances comme le cannabis qui est vraiment sous la mire en ce moment. Mais on oublie, mon Dieu, que l'alcool, l'alcool est une substance même qui entraîne plus de risques à bien des niveaux. Le risque de mort quand on en prend trop, tout ce qui est complètement banalisé par rapport à l'alcool.
Est-ce que tu peux faire aussi en étant... quand tu as trop consommé, tu peux faire bien des niaiseries puis ça peut t'amener à des choses, même le lendemain, là, si on ne parle pas de mort nécessairement, mais il reste que des problématiques, agression aussi, agression sexuelle.
Des conséquences légales.
Voilà, oui. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux parents? Parce que là, il y en a beaucoup qui vont partir, qui vont aller au festival. Ton jeune a 18, 19, 20 ans, tu lui dis quoi? Parce que bon, il est majeur, il a envie de faire la fête, il a envie de célébrer, il a acheté ses billets, ses passes, puis il s'en va, là. Quoi?
Bien, c'est sûr que on a parlé que la répression n'était peut-être pas la meilleure façon de s'assurer de sa sécurité.
Moi, j'aime m'organiser qu'il reste à la maison que la fin de semaine.
C'est ça. T'sais, surtout s'il est majeur, ça se peut que ça se passe pas comme qu'on a prévu. Souvent, ce qu'on essaie de voir avec les parents, c'est de s'assurer qu'il y ait accès à de la sécurité, qu'il y ait une communication, qu'il n'y ait pas peur de nous appeler si ça se passe pas bien ou d'avoir quelqu'un de confiance sur place. C'est vraiment ça. C'est parce qu'on disait tantôt, il y en a qui vont paniquer, qui vont tout consommer d'un coup, qui vont avoir peur des conséquences légales.
Qui n'oseront pas le dire, oui, justement, c'est pas bon. Ouais.
Ou la panique peut nous créer un bad trip. Mais, donc, si on essaie de créer un espace où, regarde, je suis peut-être pas nécessairement d'accord que tu consommes, mais si jamais, sache que, appelle-moi, prends une bouteille d'eau, aie quelqu'un de confiance, il n'y en aura pas de problème. Donc, ça, on essaie de miser sur ça.
Jessica?
Oui, bien, tout en respectant nos valeurs en tant que parents, c'est sûr que la question des drogues, c'est un sujet qui est de grande charge émotive. Hein? On craint pour nos enfants, on veut que tout se passe bien, mais c'est vraiment la clé et la communication. Je vais aller dans le même sens. On peut verbaliser aussi ces craintes de dire « moi, ça me fait peur, ça me terrorise même ». Et toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à tout ça? Donc, d'ouvrir vraiment le champ de communication et d'être là vraiment pour outiller, prévenir, de dire, bon, mais avec qui est-ce que tu sors? Moi, je m'inquiète pour toi. OK, mais c'est certain que si la personne a à vivre des expériences, elle va probablement les vivre. Mmh. Et ben on rappelle aussi, là, pour soulager un peu les parents, que la majorité du temps, tout de même, l'expérimentation est normale. Et ça ne veut pas dire que notre jeune va consommer. Oui. Hein. C'est pas parce qu'il va dans un festival qu'il va nécessairement consommer. Et si jamais il le fait, bien, de lui dire, n'hésite pas à en parler, d'aller voir des intervenants. C'est d'enlever le tabou, en fait, qui entoure ce sujet.
Et de peut-être lui donner l'information sur les organismes également qui seront présents. Okay. Ça peut un peu dire, ben, regarde, voici, je ne suis peut-être pas d'accord avec ça, mais au moins, sache qu'il y a telle personne. Donc, encore, ben, tu sais que le GRIP va être là ou qu'il y a d'autres organismes également sur place. Okay. Jessica Turmel, grand plaisir encore une fois de te recevoir à l'émission. Coordonnatrice psychoéducatrice au GRIP Montréal. L'été n'est pas fini, donc vous allez être de tous les festivals qui s'en reviennent. Et RTL Huard, chef d'équipe intervenant à Tel Jeune et Ligne Parents. Merci d'avoir été avec nous.
Merci.
Merci.